Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Aujourd'hui, un épisode de 100% estampillé SportsCenter avec Hugo Curti, Florian Vanet et Daniel Visentini. On va parler de tout, de la Super League, des Young Boys, surtout de Servette et du LS, un peu d'Yverdon, de cette nouvelle barre et de ce qui va se passer ensuite, pour ensuite parler de cette équipe de Suisse qui nous désespère tant. On a essayé de chercher des solutions pour comment être compétitif à l'Euro, et je vais pas vous mentir, on n'a pas trouvé. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. C'est fini les jours fériés, alors on reprend avec du foot, hein, après ces belles finales de ski alpin du côté de Salbar. Salut Daniel, d'abord, comment ça va ?
Bien, moi j'ai fait mon petit périple avec l'équipe de Suisse, puis là maintenant c'était l'occasion de se replonger dans le championnat.
C'est pas mal. Florian, comment vas-tu ?
Bah écoute, je vais donner la même réponse que Daniel, hein, et ça va aussi très bien.
Toi, t'es allé un peu plus en Espagne, t'as pu apprendre à jouer au golf, t'as de la chance. Et bah salut Hugo, ça fait plaisir de enfin t'avoir dans ce podcast.
Hello, merci pour l'invite, ravi de faire le remplaçant, le joker médical.
Exactement, on t'entend plus souvent sur Blue Sport que chez nous, donc il fallait y remédier un peu. Bon Hugo, bah du coup on commence par toi. La question, la première, elle est toute simple. Est-ce que Servette est au ralenti? Est-ce que c'est inquiétant?
Non, je crois pas. Je crois que Valentin l'a très bien dit dans la tribune. L'Intertour a montré comment faire pour canaliser ce Servette. Et je pense que même si le scénario du match est différent, pour moi c'est un peu le même accident qu'à Yverdon. C'est normal, c'est impossible d'être toujours en réussite, que tout fonctionne aussi. Donc, pour moi, je vois plus un accident couplé à un maître coup de Winterthur.
Daniel, en fait, Winterthur a pris l'habitude de faire déjouer un peu tout le monde, finalement. Et ça a marché avec Servette encore.
Ben oui, Winterthur, on s'enthousiasme autour du parcours de Winterthur, et il y a des raisons. Avec leur petit contingent, mais des joueurs de qualité, ils arrivent quand même à faire des choses intéressantes. Mais il ne faut pas oublier qu'ils mettent certains moyens en place. Et le moyen mis en place contre Servette, ça a été un bloc bas, un peu plus joueur en première mi-temps, beaucoup plus bas en seconde période, alors que Servette pressait. Et ça pose des problèmes, mais ça ne pose pas des problèmes qu'à Servette, un bloc bas. Ça pose des problèmes à toutes les équipes qui doivent trouver des solutions face à 8 défenseurs, un bloc très bas, les espaces sont réduits, et c'est à ce moment-là qu'il faut de la créativité. Manifestement, Servette en a manqué. Ça ne veut pas dire que tout est à remettre en question dans le jeu de Servette. Ça ne veut pas dire que systématiquement, un bloc bas suffira à faire déjouer Servette ou à perdre contre Servette. J'en veux pour preuve, à gagner contre Servette. J'en veux pour preuve que si Nishimura, à la 49e, marque son pénalty au plus fort de la pression de Servette au début de la seconde période, eh ben à ce moment-là, Servette met 1-0, et à ce moment-là, Winterthur est obligé de se découvrir, et on sait ce que ça peut donner face à un Servette qui est très fort dans les transitions rapides. Donc, je remettrai loin pas tout en question quant à cette défaite.
Surtout qu'IB en a pas profité.
En plus, oui, IB est à la peine aussi. Lui aussi a été confronté à un bloc bas, souvent d'Yverdon, notamment en seconde période, quand ils ont archi-dominé les Vaudois. Et ils ont eu les mêmes difficultés que Servette à trouver des solutions. Donc on voit que c'est compliqué pour toutes les équipes, finalement, face à un bloc bas.
Florian, on a vu que Servette, qui était longtemps invaincu, n'a pas réussi à battre Winterthur cette saison, a perdu 2 fois contre Yverdon. Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose, ou est-ce que c'est simplement le hasard d'une saison qui veut ça?
Bah, pour moi, ça veut très clairement dire quelque chose, c'est que, et c'est assez sympathique à observer, mais c'est que cette saison, il y a des déplacements pièges quand même. Alors forcément, n'importe quel match à l'extérieur est pas évident à aborder, mais Winterthur devant son public, c'est vraiment solide, il se passe un truc, il y a une atmosphère, le stade est plein à chaque match, c'est vraiment pas évident, et Winterthur a pris plus du 2/3 de ses points chez lui, et c'est la même chose, IB allait se prendre les pieds dans le tapis Yverdon ce week-end, enfin hier en l'occurrence, et c'est la même chose, Yverdon à domicile, c'est la 5e meilleure équipe de la Ligue, ils prennent 80 et quelques pourcents de leurs points là-bas, et de nouveau, il y a beau avoir que 3000 et quelques spectateurs de moyenne, bah, le stade est quand même plus ou moins plein, t'as une petite atmosphère, alors ça ne fait pas forcément frissonner un adversaire, mais de nouveau, ils arrivent à mettre en place quelque chose à domicile, c'est intéressant, puis ça crée tout un contexte sympa. On connaissait évidemment Saint-Gall, le Kibun Park, la difficulté d'aller les jouer là-bas. Ben, on se rend compte qu'il y a d'autres équipes qui sont capables de faire ça cette saison.
Ça montre aussi peut-être, si j'ose, que si les équipes de tête avaient de gros buteurs, ben les choses seraient peut-être un peu différentes aussi. Servette a perdu Bedia à la pause. Peut-être qu'avec un Bedia, Servette trouve la solution beaucoup plus facilement face à un bloc bas, que ce soit à Yverdon ou que ce soit contre Winterthur. Et ça pose aussi la question des choix opérés par Young Boys. Young Boys s'est séparé de Jean-Pierre Nsamé. Force est de constater que personne ne le remplace vraiment à la pointe de l'attaque de Young Boys. Il marque beaucoup moins de buts cette saison que par le passé, quand Nsamé jouait.
Jean-Pierre Nsamé qui ne joue presque pas à Côme d'ailleurs. De là, assez vite relancer l'idée d'une arrivée à Servette l'été prochain. Ouais.
Il a signé combien de temps d'ailleurs ?
3 ans et demi, non ?
Oui, il a signé un contrat, mais je pense que dans le contrat, il doit y avoir des options de sortie. Et puis si Côme venait à être promu, ce serait difficile d'imaginer que Côme veuille compter sur Nsamé alors qu'ils ne le font pas jouer en série B.
Hugo, cette défaite, ce qui est là, un petit côté salutaire aussi, histoire de pas. Bon, on pensait bien que Servette n'allait pas prendre la coupe là-bas par-dessus la jambe, mais ça peut donner 2-3 inputs pour ne pas passer à travers dans cette demi-finale de coupe qui sera autrement plus importante.
Oui, c'est là, Yverdon avait fait du bien au final. Il y avait vraiment un peu une leçon de piqûre de rappel, donc peut-être que ça peut faire du bien. Mais je pense surtout que Bayler devra trouver des solutions face à ce bloc bas et changer peut-être. Il a essayé de changer à l'heure de jeu, ça s'est retourné contre lui. Donc, lui devra trouver d'autres clés dès le début du match pour essayer de faire sauter ce verrou zurichois.
Ouais, puis on se souvient de ce qui s'était passé avec Lugano et Lausanne aussi, championnat coupe. Ils avaient joué 2 fois à 3 jours d'intervalle. Lausanne s'était fait taper dessus la première fois. Puis en faisant un peu valoir l'orgueil 3 jours plus tard, ils avaient retourné Lugano 3-0, sauf erreur ou quelque chose comme ça. Donc ça peut donner des idées à Servette d'une certaine manière.
On parle de Lugano, Daniel, est-ce que tu penses, toi, qu'ils sont de retour dans la course au titre, simplement, parce qu'il y a la stat marrante qui est sortie ce matin sur Twitter, Lugano est plus constant, fait plus de points sur les 5 dernières saisons que le FC Bâle, ce serait couronné à un travail de fond. Alors, on parle souvent de la multipropriété, mais à Lugano, ça semble leur réussir.
Ouais, c'est intéressant ce qui se passe à Lugano. Sur les 5 derniers matchs, c'est la meilleure équipe de Suisse. Avec donc 5 victoires sur les 5 derniers matchs de championnat, et puis aussi cette qualification en coupe. Donc Lugano, oui, c'est un candidat sérieux. Ils sont à 5 points du deuxième, à 6 points de la première place. Tout peut aller très vite, effectivement. Tant mieux, à la limite, s'il y a une course à 3 qui se présage. Mais je peux quand même me dire que Young Boys et Servette ont une petite marge encore sur Lugano, parce que Lugano est à son prime, là, littéralement, et tandis que et Young Boys et Servette commettent des faux pas, et ils restent quand même avec passablement de points d'avance. Si les deux se mettent dans le bon rythme à nouveau, ça va être dur quand même pour Lugano, parce qu'il faudra d'une part qu'ils tiennent leur rythme incroyable de ces 5 dernières journées, et en plus que les autres ne s'enfuient pas un peu plus devant en retrouvant des couleurs. Donc, oui, c'est bien pour le foot suisse, mais ça ne veut pas dire que si Lugano souffle dans la nuque des deux, il arrivera à s'accrocher au maillot.
Hugo, toi, tu vois...
Quand tu es sorti, on parlait dimanche à la RSI, visiblement, en disant que si les deux continuent à faire des erreurs de devant, ils devraient en profiter. Donc, il y a un peu... J'ai l'impression que le mot du titre est... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est un tabou à Servette encore pour l'équipe et le staff. IB doit absolument le gagner. Et puis, Lugano, finalement, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc, pour eux, ils sont peut-être plus décomplexés. Et effectivement, s'ils continuent avec, en plus, l'assurance d'une confrontation directe avec chacun des deux, donc, ils pourraient devenir menaçants.
Florian, toi, tu vois, ce Renato Steffen soulever le titre, la coupe de titre de champion de Suisse avant d'emmener la Suisse en finale de l'Euro, tu le sens bien?
Je n'ai pas jusque-là dans les projections, mais je trouve que c'est assez intéressant ce que fait Lugano. Quelque part, j'ai l'impression qu'ils arrivent à peut-être tirer ce qui peut se faire de mieux au niveau modèle de trading slash conserver une sorte de noyau et puis une espèce d'identité locale. Alors, faut le dire quand même assez vite, mais mine de rien, ils ont un entraîneur qui est là depuis pas mal d'années. Ils ont un cadre d'équipe avec plusieurs joueurs très importants qui sont là aussi depuis longtemps. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'éléments qui tournent et puis qui leur apportent un peu d'argent, etc. Et ils arrivent à performer sur la durée comme ça. Et j'ai l'impression que beaucoup d'équipes cherche à reproduire ce modèle, mais forcément, ça prend du temps. Et souvent, tu as un faux pas, une relégation, quelque chose qui vient t'en nier là-dedans. Et j'ai l'impression que Lugano a trouvé une sorte de rythme de croisière à ce niveau-là.
Oui, puis ils ont un vrai buteur, Tchellard, devant. Et puis, ils ont aussi maintenant le retour de Ousmane Doumbia au milieu qui fait beaucoup de bien.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de maison mère entre Chicago et Lugano. C'est des équipes un peu du même niveau. Donc, ils peuvent s'échanger les joueurs un peu remplaçants pour les relancer ailleurs. C'est assez intéressant, Hugo. Je pense qu'on va devoir aller enquêter sur le sujet un peu. Parce que je ne comprends pas quelle est l'équipe mère, en fait.
Bon, économiquement, il n'y a pas photo, c'est clair. Mais c'est vrai que sportivement, on peut se poser la question. Il y a Haïlé Selassie qui est parti dans l'autre sens aussi, qui était quand même un joueur intéressant en Super League. Donc, c'est pas, disons que, il n'y a pas un club qui en profite pour l'instant. C'est plus comme quand on était petit, quand on faisait des échanges Panini dans la cour de récréation, j'ai l'impression.
Et ça va être énorme quand Chicago n'aura marre de payer Shaqiri qui doit avoir le deuxième plus gros salaire de la MLS et qu'ils vont le parquer à Lugano pendant six mois, une année. Ça risque d'être assez rigolo. Pour cette partie, Daniel, dernier topic au sujet du titre, IB, j'ai l'impression que ça progresse pas avec le nouvel entraîneur, et deux, des problèmes s'ajoutent parce que liste des blessés longue comme le bras, et puis un joueur qui arrive en retard au rendez-vous, c'est quand même tous les symptômes d'une équipe qui va pas.
Bah oui, IB est un peu dans la mouise, c'est pas comment s'en sortir. Il y a eu des choix qui ont posé question de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Les joueurs entre eux parlent quand ils voient que Nsamé n'est plus titulaire alors qu'il est le meilleur buteur de l'équipe. Ça soulève des questions quand ils voient que Roudani, qui était le meilleur à l'entraînement, est parqué de côté, il devait aller à Servette, finalement il rebondit à Lausanne en prêt. Ça interpelle aussi les joueurs quand on voit que Garcia part. C'est un problème aussi pour qui affaiblit l'équipe. Et il y a plein de petits éléments comme ça qui font qu'il y a beaucoup de discussions autour d'IB. Effectivement, il leur manque de l'efficience un peu et de la percussion au milieu. À ce titre-là, évidemment, les absences de Dugrinić principalement, avec sa fracture de l'orteil, et de Castriot Imri, handicap clairement le jeu. Et la pertinence et la cohérence du jeu voulu par Young Boys. Mais ça pose des questions de gouvernance aussi sur les choix qui ont été opérés par le directeur sportif Steve von Bergen, qui le fait sans doute avec l'accord de tout le monde, à commencer par Christophe Spicher. On se souvient qu'à la dernière fois que Young Boys avait laissé partir trois joueurs essentiels à la pause, il avait fini troisième du championnat. Et Zurich avait été champion. Peut-être qu'ils sont à nouveau dans une année de transition. Les renforts qui sont arrivés sont pas des renforts qui ont apporté une grande différence. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre fait que Young Boys est en difficulté. Oui.
Florian, question bassement pratique. Comment est-ce que avec tous ces absents, IB a réussi à les mettre dans la tribune du municipal?
Ils s'en sont pas mal sortis, mais Yverdon fait aussi assez fort et ils s'en trouvaient une petite rangée au milieu. Je crois le deuxième rang, sauf erreur, il y avait Anthony Sautier, William Le Podium. Ils sont un peu mélangés d'ailleurs, ils étaient très bien là-dedans.
Ouais, ça fait un sacré manque à gagner quand tu enlèves 20 places assises. C'est pas la même chose au niveau du budget.
Ouais, puis t'avais tous les potes d'Anne Luzic aussi, l'Iverdonois de Young Boys qui étaient là, qui sont venus le voir jouer à domicile. C'est sympa aussi.
Hugo, est-ce que ce serait pas une super mauvaise nouvelle qu'un IB qui part complètement en sucette, qui bosse pas très bien et qui a des gros problèmes de blessures soit champion, je dis pour le championnat de Suisse, ce serait un peu terrible qu'une équipe qui part en capitulatate comme ça arrive quand même à gagner le titre.
C'est vrai qu'à l'exception du titre de Zurich, ces dernières années, ils ont quand même été au-dessus du lot, donc avec aussi les bénéfices de la Ligue des Champions. Forcément, effectivement, comme tu dis, pour le championnat suisse, c'est pas une bonne nouvelle. Mais malgré tout, ça permet aussi à Servette de jouer sa carte à fond. Donc, mais je pense que eBay avait toujours ce coup d'avance, un peu comme des dominos qui tombent parfaitement les uns sur les autres, où les départs sont compensés, comme disait Daniel. Et là, il y a clairement un souci et le domino pourrait peut-être tomber à plat.
C'est très bien, on passe à la deuxième partie. Et Daniel, je commence avec toi, vu que tu as été plongé dans l'univers du Lausanne Sport hier. Est-ce que la question est tout simple, elle sera pour tout le monde ensuite. Est-ce que le Lausanne Sport est définitivement sauvé?
Définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont fait un grand pas en direction d'un gros bol d'oxygène. Cette victoire au Lessigrun face à Getse porte maintenant l'écart entre Getse, qui est 11e, donc le barragiste, et Lausanne à 5 points. Alors, ça ne veut pas dire que tout est encore joué, parce que tout va très vite. Mais on peut voir quand même que Lausanne a fait une première mi-temps remarquable en tout point, avec un vrai plan de jeu, avec des vraies projections, avec des choses très intéressantes. Et puis, comme c'est souvent le cas avec cette équipe, la deuxième période, c'est une absence totale. Lausanne ne sait pas comment jouer en seconde période, dès que Grasseper revient en mettant un peu de pression. Et j'ai l'impression désagréable qu'il y avait comme une crispation, que tout ce qui se faisait plus naturellement en première période, une première période où Lausanne doit arriver à la pause avec 3-1, hein, si on compte le but que doit marquer Fink sur une grossière erreur en rupture de Lausanne dans son remplacement. Mais néanmoins, ils doivent arriver à la pause avec 3-1. Donc, il y a les problèmes de finition qui sont et les problèmes de justesse et de crispation en seconde période, ou en tout cas dans les deuxièmes parties de match de Lausanne. Alors, ils sont sur la bonne voie si on regarde la première mi-temps, oui. Et puis, il y a encore du danger si on regarde la deuxième période, oui aussi.
Si on prend les scores qu'en deuxième mi-temps, Lausanne est la pire équipe du pays. Et si on prend sur la première mi-temps, je crois qu'ils sont troisième ou quatrième. Donc,
ils ont combien de points en deuxième mi-temps, tu sais?
Je peux retrouver, là, je l'ai plus en tête.
On peut faire un intermède si tu veux. On chante un peu pendant que tu fais tes recherches. Bon, Florian, alors pendant qu'il fait ses recherches, je viens vers toi. Est-ce que Lausanne est sauvée? Est-ce que, en jouant comme d'habitude, hein, en fait, ils n'ont pas beaucoup bougé depuis le début de saison, est-ce que maintenant que ça paye et cette victoire, et Dieu sait que Getse est en grosse difficulté maintenant, est-ce que toi, tu penses que c'est bon ou comme c'est le LS, il faut s'attendre à tout jusqu'au bout?
Écoute, je sais pas si c'est bon, mais moi, depuis déjà bien quelques semaines, je dirais même quelques mois, je suis pas très inquiet pour cette équipe. Franchement, forcément, elle était un peu comptablement, mais je veux dire, tu regardes les matchs qu'ils font depuis même le début de la saison. Je trouve que c'est compliqué d'être vraiment inquiet, même si je rejoins complètement Daniel sur le fait que ce qu'ils présentent est très, très inégal sur un match, vraiment. Et parfois c'est bien pendant une demi-heure, parfois c'est bien pendant une mi-temps, parfois c'est 60 minutes. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à essayer tactiquement à ce niveau-là, ou peut-être juste, je sais pas, tu fais deux changements à la mi-temps une fois, même quand ça joue, même quand tu mènes 1-0 ou 2-0 à la mi-temps, tu essayes un truc. Parce que c'est vrai que cette crispation-là, on la ressent très souvent. Et oui, je pense que Ludovic Magnin tarde souvent à faire ses changements. Ma foi, je pense qu'il a aussi ses raisons de le faire, mais je serais intéressé une fois de voir des changements tôt dans le match pour voir comment le LS serait capable d'aborder deux mi-temps, alors peut-être de manière différente, mais sur un rythme plus similaire. Je pense que c'est encore ça qui manque à cette équipe, mais au-delà de ça, de nouveau, ils ont aussi fait du bon job cet hiver en allant chercher un Donat Roudani qui est vraiment excellent, qui s'est blessé, mais qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et voilà, Pafundi prend ses marques aussi. Non, franchement.
Il n'y a pas de quoi être inquiet foncièrement pour Lausanne. Parce que quand on voit que Sanchez, il est là avec quelques petits gestes. C'est son premier match titulaire depuis son retour de blessure. On le voit, il cherche encore le rythme, mais il va offrir des solutions. Pafundi peut en offrir aussi. Bernédé est un solide. Solide pilier au milieu, et puis même sans Dussen et sans Seine, Lausanne a a largement dominé et méritait de clouer le match définitivement dès la première période. Donc oui, dans ce sens-là, je suis d'accord, mais néanmoins, il reste 9 matchs maintenant, hein, entre la fin du troisième tour et puis les 5 derniers matchs, il reste 9 rencontres. Tout peut aller très vite, et puis cette crispation-là, elle est pas saine quand on la voit systématiquement arriver en deuxième période. Bah, elle peut générer quelque chose de néfaste si tout d'un coup les choses se passent mal dès la première période. Je sais pas, petite réserve encore.
Donc, j'ai retrouvé jamais la stat sur les 45 premières minutes. Il serait quatrième à 3 points d'un trio IB, Servette, Zurich. Et puis, si on prend que les scores en deuxième mi-temps, ils sont derniers avec 27 points.
Ouais, tu vois. Bah, Hugo, j'enchaîne avec toi pour parler aussi de ces changements, de ces petites capacités à plonger du LS en deuxième période. Le LS a été finalement assez bien renforcé cet hiver. Est-ce que Ludo ne devrait pas plus en profiter en changeant plutôt, comme disait Florian, ou en changeant même 3-4 joueurs à la 60e pour éviter ce genre de choses? Parce qu'il y a eu de la qualité qui a été ajoutée.
C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Moi, j'ai souvenir de ce match à Lucerne où en plus ils sont un de plus. Et on sent cette équipe qui n'arrive pas du tout à réagir. Avec justement Manu qui change assez tard, honnêtement, j'arrive pas à expliquer ces deux visages vraiment montrés par Lausanne.
Bon, Florian, il est l'heure de pronostiquer. Hein. Avec la première question qui me vient quand même à l'esprit, c'est que sur les 9 matchs restants, est-ce que Guetze va faire 5 points déjà? Parce que quand tu vois comme ils sont pas bons et comme c'est difficile, c'est peut-être eux les grands favoris. Mais il y a quand même du monde en lice pour ce barrage. Et toi, qui est-ce que tu vois, toujours en partant du principe que le SLO est hors combat et hors catégorie, qui est-ce que toi tu vois sur cette barre affronter normalement Thun en toute fin de saison?
J'ai déjà une question. Est-ce que si Thun ne peut pas participer au barrage, c'est le troisième qui le remplace, ou est-ce qu'il n'y a pas de barrage? J'ai un doute.
Est-ce
maintenant
que c'est la jurisprudence comme que ça
va? Ouais, je sais plus.
Thérapie parce que les autres ils pouvaient pas monter. Exact. À mon avis, il doit y avoir une jurisprudence là derrière.
Ouais, je sais plus comment ça va maintenant qu'il y a eu cet épisode. Si Daniel ou Hugo peuvent éclairer notre lanterne, c'est top. Sinon, écoute, moi je vois clairement Guetze rester 11e, et surtout quand je regarde l'état de forme actuel des équipes, que je vois que le calendrier de Lausanne, c'est Saint-Gall, c'est Lucerne, c'est Zurich, qui sont trois équipes qui vont vraiment pas bien. Moi, ça me fait dire que Lausanne n'ira pas chercher la 6e place, elle est trop loin, c'est un peu dommage. On va commencer à repenser à ces points perdus bêtement à gauche à droite. Mais je les vois vraiment très tranquilles. Et puis voilà, de ce qu'on voit de Guetze, pour moi, je vois pas comment ils s'en sortent, même si Verdon est que 4 points devant. Et voilà, c'est pas joué à ce niveau-là, quoi.
Hugo, toi, tu vois Guetze aussi, parce que en changement de joueur, changement de propriétaire, pas grand monde au stade, ce serait un peu une juste sanction.
Oui, en plus, ils vont à Yverdon, mais sinon, ils jouent les trois premières équipes, IB, Lugano et Servette. Donc, avant la séparation. Hein, mais je pense qu'effectivement, ce calendrier jusqu'à la fin du mois d'avril ne joue pas en leur faveur.
Daniel, même question, mais avec un petit ajout de ma part. Déjà, est-ce que toi aussi, tu vois que Guetze, tant pis pour barrage? Et deux, pour te permettre de partir sur un autre topic, est-ce que on va se rendre compte cette année que ça va être génial cette nouvelle formule, parce que c'est serré tout en haut, c'est serré tout en bas, et ces 5 matchs supplémentaires vont vraiment être totalement décisifs, ça va être la folie, les gens vont être dans la rue à faire tourner leur serviette tellement ce championnat de Suisse va nous faire rêver jusqu'au bout.
Bon, alors première partie de la question, oui, je pense que Grasshopper va rester à cette 11e place. Sur la base de ce que j'ai vu contre Lausanne, c'est d'une pauvreté assez misérable. Et je vois pas comment Grasshopper pourrait trouver d'un seul coup des certitudes, des assurances. On verra ce qui va se passer, mais c'est un peu le sentiment qui ressort. Pour ce qui est du championnat, alors là, non, moi j'ai beaucoup de peine avec cette formule parfaitement hybride. On va d'abord voir ce qui va se passer une fois qu'on aura fini les 33 premières journées. Et puis qu'on part sur la course pour le titre et la course contre la relégation. Déjà, il y a une barre. J'ai jamais aimé les barres, donc voilà. C'est un problème.
Ça dépend lesquels. Ça dépend.
Mais, ouais, mais en même temps, ouais, ça dépend lesquels, effectivement. Mais cela dit, oui, c'est serré en haut, c'est serré en bas. Ça changerait quoi si la formule n'était pas celle-là et qu'elle était une formule normale?
Bah, les confrontations directes.
Mais ce serait serré en haut, ce serait serré en bas aussi, donc il n'y aurait pas de problème, et on n'aurait pas besoin de voir, par exemple, parce que maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose, une fois qu'on terminera la 33e journée, celui qui est 7e, admettons qu'il soit 7e à égalité de points avec le 6e.
Il a l'air bien con.
Ben, il a l'air, un, bien con, deux, son championnat et sa saison est terminée, il n'aura aucune chance d'être ne serait-ce que barragiste, et puis ben, on sera dans un rien du tout, un no man's land du football pour cette équipe-là, qui pourra même pas, pour l'instant, le septième, avec 39 points, c'est Lucerne, il est à 5 points de Zurich, quatrième européen. Ben, à ce moment-là, le septième peut plus espérer être européen avec la barre. C'est terminé, c'est fini. On n'espère plus rien. Donc, fin de saison en forme de queue de poisson. J'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas cette formule hybride. On va voir encore tous les problèmes qui vont se poser au moment d'établir le calendrier des 5 dernières journées. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'avoir 19 matchs par équipe à domicile, si bien que peut-être qu'une équipe ou deux vont devoir jouer 4 matchs à l'extérieur et un match à domicile seulement pour rétablir l'équilibre de 19 matchs à domicile, le tout en jouant, par exemple, une fois de plus à l'extérieur contre un adversaire direct de son groupe de promotion, enfin de titre ou de relégation. Donc, ça pose plein de problèmes, cette formule. Elle est hybride depuis le début. Je pense qu'on devrait réfléchir à mieux. On mérite mieux que ça.
Et le LS pourrait jouer une fois de plus à domicile, en jouant à la Pontaise contre le SLO, ce qui ferait des points dans la popoche. Hugo, qu'est-ce que tu penses de cette agrégation de lutte intestine? Est-ce que tu penses que on va aimer ça, ou est-ce que, comme Daniel, tu as peur que ce soit un peu la foire à la saucisse avec Lucerne qui fera jouer CM19, parce que de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre?
Je pense que c'était clairement une espèce de solution, un entre-deux un peu mou entre les playoffs, hein, on le rappelle, qui était quand même une des solutions évoquées, et peut-être une formule un poil plus radicale comme en Belgique, où on voit où l'Union Saint-Gilloise a perdu toute son avance après une journée de playoffs, où là il y a vraiment les enjeux qui sont, les cartes qui sont vraiment plus rabattues et rebattues, et où tout d'un coup Lucerne pourrait se mêler à une autre lutte. Donc je pense que je rejoins Daniel, où c'est vraiment un espèce d'entre-deux, avec en plus le fait que, vu que c'est impair, tout le monde ne joue pas à domicile contre les mêmes équipes. Donc, il y a aussi une inéquité sportive que je trouve dommage. Donc, c'était vraiment une solution, pour moi, une formule qui est très suisse, finalement, parce que c'est un espèce de consensus un peu mou et décevant.
Florian, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, bah, typiquement, Yverdon est assez bon à domicile contre les gros. Il y a certaines équipes qui sont meilleures contre les faibles. Ça peut changer un peu la manière de jouer ces derniers matchs?
Écoute, j'en sais rien. En fait, moi, la seule chose qui m'énerve vraiment là-dedans, c'est que on ait changé une formule pour ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça apporte tellement pas grand-chose. Ça apporte tellement, c'est pas, il n'y a pas une nouvelle dimension à notre championnat. Il y a que dalle. Juste, bon, ben voilà, on divise un peu. Je sais pas pourquoi on a changé pour si peu. Maintenant, moi, j'entends parfaitement vos arguments. Je suis pas choqué qu'une équipe joue un match de plus à domicile ou à l'extérieur. Ça, franchement, ça change pas grand chose. Je pense qu'un ventre mou avec une équipe sixième ou septième qui doit jouer 5 matchs pour beurre à la fin, on a déjà connu ça plein de fois. C'est pas la fin du monde. Mais juste que on soit trituré l'esprit pour arriver à un résultat final si fade, je trouve ça.
Ouais, mais imagine une seconde, Florian, que dans le tour pour la titre, afin de rétablir la parité, parce que si Lucerne passe devant Saint-Gall, c'est ce qui va se passer, il va falloir trouver des moyens pour que tout le monde soit à 19 matchs à domicile. La SFL décide, alors je sais pas s'il y aura un tirage au sort ou une décision, mais d'inverser le match Servette Young Boys. Normalement, c'est Servette Young Boys qui doit se jouer. Et si tout d'un coup, pour arriver à 19-19, il faut inverser un match et fixer ce match-là, eh bien, il y aura Younes Servet à la place de Servet Younes. Bah, c'est une iniquité sidérante.
Mais on est vraiment dans le cas le plus extrême possible.
Mais oui, ça engendre, cette formule-là engendre ces risques.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et si on doit en arriver là, ce serait une aberration totale. Je suis bien d'accord.
Mais tu vois, Florian, si Yverdon, qui fait 80, je sais plus combien de pourcents de ses points à domicile, doit se taper 4 déplacements et qu'ils sont en barrage, eux, ils vont faire la gueule aussi.
Mais ils ne se taperont pas 4 déplacements, c'est 3 déplacements tout au plus, non? Mais oui.
Non,
mais...
ça peut arriver qu'il y ait 4 déplacements. C'est la version pire du pire.
Oui, mais alors, ça veut dire que tu joues 2 matchs de plus à l'extérieur par rapport à domicile?
Alors ça, là, il va falloir se remettre dans les mathématiques. On peut donner congé 10 minutes à Hugo pour qu'il aille faire les calculs, hein, si jamais. Mais ouais, c'est assez marrant avec cette formule, c'est qu'on ne sait pas très bien où on en est. Hugo, toi, est-ce que tu as déjà tout compris ou est-ce qu'il faut qu'on te réexplique aussi?
Alors, honnêtement, je vais avouer que j'ai pas tout compris. Et la dernière fois que c'était, il me semble que c'était toi, Daniel, qui avait appelé à Berne pour poser des questions. Les gens eux-mêmes, les gens de la Ligue eux-mêmes devaient aller demander entre eux pour savoir.
Oui, ils faisaient des plans sur la comète, en fait, pour savoir. Et ils sont obligés de prévoir un peu à l'avance. Donc, c'est ce qu'ils ont fait au début de l'année. Qui pourrait être dans les 6 premiers afin de préparer déjà les matchs 3 à l'extérieur, 2 à domicile ou le contraire pour les 5 dernières rencontres après la 33e journée. Et puis, fatalement, maintenant, ces plans-là, si tout d'un coup les choses sont bousculées, si Winterthur reste au-dessus alors qu'ils n'étaient pas prévus d'être au-dessus au départ et que Lucerne était lui 6e à l'époque et il ne l'est plus maintenant, tout ça provoque des bouleversements dans l'organisation même de ces 5 dernières journées.
Et puis leur grand argument, c'est de dire que si une équipe est un peu prétéritée par le calendrier cette saison, ça serait compensé l'année prochaine. Enfin, c'est vraiment...
C'est ridicule d'entendre ça. Donc l'année prochaine, ce sera compensé, mais l'année prochaine, ce sera compensé peut-être dans le vide, parce que là, on joue le titre, par exemple, pour une équipe comme Servette, Younes Boys ou Lugano. Et c'est pas la même chose. Idem pour la relégation, hein, avec SLO et les équipes qui seront confrontées au barrage.
Si jamais, entre-temps, j'ai vite regardé pour l'essor du barrage, si tout ne le fait pas, que se passe-t-il? En tout cas, l'année passée, c'était le grand argument de Sion qui mettait la pression pour que la licence soit retirée à Yverdon. C'était que si Yverdon montait pas, c'était le SLO qui montait direct et le barrage était annulé.
Ouais, ok. Merci pour les précisions. Du coup, ça rend ça très intéressant.
Est-ce que c'est encore comme ça cette saison? J'en ai pas l'assurance, mais en tout cas, c'était le LS et SLO qui montait, le barrage tombait et Sion pouvait se sauver comme ça sur tapis vert.
D'accord, très bien. Oh, je vous propose de passer du football suisse au football suisse, mais un peu plus international. Florian, qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine de matchs amicaux? Parce que moi, il y en a même un que j'ai pas regardé tellement ça m'intéressait pas, c'est terrible. T'es obligé d'en faire, mais peut-être t'en fais pas assez parce qu'il y a quand même un euro derrière, mais j'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes problèmes, on est toujours dans le même flou artistique et qu'on n'en sait pas plus sur cette équipe de Suisse, ce qu'elle vaut, comment elle joue, qui est le patron, à part que Granit Xhaka fait 150 bonnes passes par match, j'ai l'impression que tout le reste, c'est du convenu.
Oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on a appris 2-3 choses au niveau des certitudes défensives. Je crois que faut le dire comme ça. Et si vous retenir quelque chose de positif, c'est ça. Mais moi, ce que je retiens surtout, tu m'as lancé là-dessus, mais c'est l'ennui autour de cette équipe de Suisse. C'est l'ennui que dégage cette équipe de Suisse en ce moment quand elle joue. Alors ça s'est surtout vu sur ces 2 matchs amicaux, mais c'était aussi gentiment le cas en fin d'année dernière. Et c'est ce que je trouve le plus triste, c'est que tu dois amener du monde derrière toi pour cet euro qui se passe pays limitrophe, mine de rien, je ne sais même pas si on peut encore parler aujourd'hui d'ambition, mais on a tous les souvenirs de 2006, on a tous les souvenirs du dernier euro où il y avait une immense ferveur populaire, et aujourd'hui on regarde un match de l'équipe de Suisse, et t'as éteint ta télé. Je pense que beaucoup de gens ont fait comme ça, ont fait comme toi, ou n'ont même pas regardé le deuxième match. Et moi, c'est ce que je trouve le plus triste, c'est vraiment une équipe qui dégage pas grand-chose aujourd'hui.
Daniel, ce qui est sûr...
À l'image de Mouratiakine.
Voilà. Daniel, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas profité de cette semaine pour retrouver l'âme de cette équipe qu'on a perdue depuis
trois ans.
Le Portugal.
Non, depuis trois ans, voilà, en fait. Depuis l'arrivée de Mourad Yakin. Alors, je ne vais pas m'acharner sur le monsieur, mais quand même, il est arrivé avec des idées défensives. Il a mis quatre défenseurs dès le début quand il est arrivé. Il a eu une baraka phénoménale pour se qualifier directement devant l'Italie, qui a, soit dit en passant, raté deux pénaltys, qui aurait condamné la Suisse au barrage sinon, pour le Mondial 2022. C'est le seul moment où il a fait illusion, et je parle bien de faire illusion, parce que sinon, dans tous les plans de jeu, l'équipe de Suisse a régressé. Elle ne sait plus quoi faire quand elle a le ballon, et c'est criant, ça a été criant tout l'automne dernier, mais même avant, et les joueurs sont un peu perdus là-dedans. La seule certitude, comme l'a souligné Florian, c'est que le système a changé. Donc autrement dit, Yakin, qui ne prônait que par une défense à 4, a décidé de passer dans un espèce de 3-5-2, 3-4-3, à voir un peu comment ils veulent le mettre en place. Un système que les joueurs ont demandé, principalement Granit Xhaka aussi, et ça raconte là aussi le malaise qui existe autour de cette équipe, puisque finalement, la seule assurance que la Suisse a, c'est qu'elle est un peu plus en contrôle face à un adversaire relativement bon, même s'il n'était pas très bon ce jour-là, je parle du samedi au Danemark, la Suisse est capable de traverser ce match sans prendre de but. Avec un peu plus de justesse, le Danemark aurait fait mal, mais néanmoins, la Suisse sort de ces deux matchs sans avoir encaissé de but. Voilà, c'est super, c'est une belle certitude. Avant, la Suisse était capable de marquer trois buts à l'équipe de France ou d'en marquer un à l'équipe d'Espagne. C'est des choses qu'on peut gentiment oublier aujourd'hui, je crois.
Hugo, toi qui n'étais pas dans le stade pour le boulot sur ces deux matchs, est-ce que tu as réussi à les voir les deux en entier?
Honnêtement, non. pas en direct. Après, j'étais les revoir par conscience professionnelle, mais c'est vrai que c'est dur de s'enthousiasmer. Et il y a un collègue qui n'est pas parmi nous quatre et que je n'aimerais pas, mais qui m'a parié une bouffe que Mourad Yakin ne serait pas le sélectionneur de l'équipe de Suisse à l'Euro. Alors, même si c'est ce que je souhaite à titre personnel, j'arrive pas à y croire. Donc, j'ai pris le pari, et ça, c'est avant les deux matchs amicaux. Et quand on voit, en fait, moi, ce qui m'a vraiment halluciné, il n'y a pas d'autre mot, c'est que il y a eu cette promesse que ça allait changer, que Mourad restait, mais sous certaines conditions, et promis, on va changer. Et en fait, au final, le gars, il organise un camp dans un golf, alors qu'on sait que c'est un grand golfeur et pas le plus grand des travailleurs. Il engage son meilleur pote comme assistant et il change absolument rien. Donc, il y a quand même un immobilisme, pour rester poli, qui est difficile à comprendre.
Et Florian, comme d'habitude, le seul qui arrive à mettre un but, c'est Sherdan Shaqiri, qui n'est pas bon, hein, il n'a pas le rythme, il n'est plus à niveau, mais c'est lui qui marque, c'est quand même taré.
Bien sûr, et ça fait dire que l'équipe de Suisse, dans son état actuel, a besoin de Sherdan Shaqiri. On a même plus que besoin, parce que on a presque l'impression que même s'il coûte quelque part une place à l'équipe de Suisse pour ne pas presser, pour ne pas défendre, il est quand même là pour peut-être avoir le seul geste qui peut sauver cette Suisse sans idée, quoi. C'est malheureux de devoir se dire ça, mais c'est la réalité actuelle, j'ai l'impression.
Alors, je vois un certain Daniel Visentini qui n'a pas l'air d'accord avec toi.
Non, là, je ne partage pas, quoi. Sherdan Shaqiri a été un extraordinaire joueur, l'un des meilleurs de l'histoire de la sélection suisse de football, mais je crois qu'on arrive au bout du chemin, là, quand même. Franchement, ce qu'on a vu de Shaqiri titulaire contre l'Irlande il y a une semaine... franchement, c'est un joueur qui marche. C'est dans un système qui suppose un peu de proactivité, zéro activité. Et alors, effectivement, il a été capable de brosser un coup franc avec, j'ai envie de dire, la complicité du gardien. Il le prend de son côté, en plus, sans s'attendre à ce que le ballon vienne là. Donc, admettons, enlevons ce but, l'équipe de Suisse joue à 10, en fait. Il y a eu quelques passes ou quelques tentatives de déviation. C'est plus ça actuellement, et même à Chicago ils commencent à s'en rendre compte maintenant. Ils l'ont mis sur le banc pendant 80 minutes lors du dernier match. Il est rentré pour les 10 dernières minutes sans rien apporter. Bon, franchement,
ça va être un voyage dans les pattes quand même.
Pardon?
Il avait un voyage dans les pattes aussi.
Oui, je suis entièrement d'accord. Il avait un voyage dans
les pattes.
Il a joué
une heure quand même.
Mais il a pas qu'un voyage dans les pattes actuellement. Il a quelques années de trop, à mon avis. Et même s'il a un talent fou, et je voudrais jamais cracher sur tout ce qu'il a apporté à l'équipe de Suisse, je vois mal un Shaqiri qui puisse faire la différence au niveau international contre l'Allemagne, par exemple, à l'Euro. Je doute fort qu'il puisse prendre à défaut qui que ce soit dans l'équipe d'Allemagne. Et c'est trop dangereux de jouer comme ça sur le passé ou sur l'affectif d'un joueur. Il sera grand pour toujours avec l'équipe de Suisse. Je doute qu'il puisse l'être encore.
Moi, je pense qu'il pourra l'être, mais dans un rôle de joker ou peut-être en étant titulaire une fois sur les trois matchs.
Je vois pas. Joker, je suis d'accord de rentrer en matière, mais titulaire, je vois pas, non.
Ouais. Surtout trois matchs en huit jours, ça me paraît beaucoup trop.
Bon, question toute bête, Hugo. Comment on fait pour être compétitif à l'Euro alors?
Disons qu'avec un maillot, il y a du grenat. Ça pourrait aider, dirait Daniel, mais.
Oui, c'est vrai.
Et non, moi, je suis très inquiet, vraiment. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que cette inquiétude, elle devait sauter aux yeux déjà contre le Portugal. Je ne parle même pas de la campagne qualificative. Catastrophique et personne s'en rend compte ou personne est inquiet à l'ASF. Donc, à part un miracle, je vois pas.
Daniel, on voit que l'Allemagne revient à un niveau, à un bon niveau. Hongrie-Écosse, une équipe de Suisse, j'ai envie de dire, pas sur son niveau parce que là, ce serait compliqué, mais une équipe de Suisse, comme on imagine pouvoir l'avoir, ça doit passer. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que le cours camp d'entraînement avant l'Euro peut apporter pour enfin retrouver notre équipe de Suisse qui nous a fait rêver ces dernières années et qui est peut-être la dernière fenêtre d'opportunité pour toute une génération?
L'équipe de Suisse doit réapprendre à se projeter et à avoir des plans de jeu. On a l'impression que le plan de jeu défensif est maintenant assez clairement établi. La Suisse va jouer avec une défense à trois centraux à l'Euro en Allemagne. Mais une fois que ça c'est acquis, une fois que ça c'est posé, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe une fois que la Suisse a l'équipe, une fois que la Suisse a le ballon dans les pieds. Il y a de grandes difficultés. Alors bien évidemment que le rôle de Xhaka est important. Il faut espérer que Mbolo reviendra à la pointe de l'attaque parce que Kafor n'a jamais donné satisfaction à ce poste-là. Il a été transparent en fait notamment au Danemark. Et il faut espérer aussi que des joueurs soient mieux utilisés. Le système prôné par Yakin au Danemark était une sorte de 3-4-3, mais en fait qui ressemblait à un 3-5-2 ou 5-3-2 sans le ballon le plus souvent. Et en fait dans ce système-là, Zakaria devait se projeter comme troisième homme devant. C'est pas son rôle à Zakaria de se projeter dans cette configuration là. Donc il faut aussi placer les joueurs aux bons endroits pour explorer leurs bonnes qualités. Et la Suisse a les moyens de faire ça. Après c'est une question de choix. Et Yakin est au pied du mur. On est un peu dans une course contre la montre. La Suisse a perdu beaucoup de certitudes, beaucoup d'assurance. Elle sait plus trop ce qu'elle doit faire avec le ballon. Retrouver ça en deux mois. Ça va être coton. On peut compter sur l'orgueil des joueurs, pourquoi pas, mais forcément, c'est difficile d'être optimiste.
Oui, et puis bon, Mbolo qui doit revenir sportivement. Il faut déjà voir s'il arrive à récupérer du rythme et sa forme d'avant sa grave blessure. Puis il y a aussi maintenant une énième affaire, j'ai envie de dire, Mbolo, où il est accusé d'avoir acheté des faux certificats Covid en février 2021, à peu près à la période où il avait été surpris dans cette fête illégale. Ça commence à faire quand même aussi beaucoup sur le plan extrasportif où à chaque fois qu'il revient ou qu'il est attendu, il y a une vieille casserole qui est sortie d'une armoire. C'est aussi compliqué à ce niveau-là.
Tu fais quoi, Hugo, si t'es décideur à l'ASF, tu fais quoi avec Brelem Bolo? Tu le punis pour sa conduite extrasportive ou tu le sélectionnes quand même?
C'est une vraie question. Ça commence à devenir une vraie question. Après, je pense qu'il est tellement indispensable sportivement et on est un tellement petit pays de football que
dans l'absolu c'est pas à lui de payer, enfin c'est pas à la Suisse de décider s'il mérite une punition pour quelque chose qu'il n'a pas fait sous le maillot suisse, ça fait erreur hein.
Non, bien sûr.
Donc à ce moment-là la Suisse peut dire ma foi, si la justice du pays de son club, le Blanchy, ben, y a pas de problème. Mais
évidemment, mais c'est toujours une symbolique de jouer pour l'équipe de Suisse. Tu représentes ton pays, etc. Alors, est-ce que pour représenter ton pays, tu veux quelqu'un qui
ouais, mais on peut pas, des certificats on peut pas groupes, plus, mais on peut pas non plus dire que l'ASF doit dire on ne veut plus Mbolo, oui. Et que dans le même moment, la justice allemande va dire bah non, il y a pas de problème de notre côté. Ce serait tirer une balle dans le pied à ce moment-là. Donc moi, je vois pas la SF prendre position avant qu'il y ait une décision ferme qui soit prise concernant Mbolo. Et puis sinon, bah, il y a des solutions de rechange. Il faut peut-être arrêter de s'obstiner avec Iten ou avec Okafor devant, et puis penser peut-être que quelqu'un comme Hamdouni, qui a eu sa chance et qui les a saisis à chaque fois, ses chances, en marquant beaucoup de buts pour l'équipe de Suisse, quand on l'a lancé titulaire, bah, lui, il offre une solution de rechange extrêmement intéressante, précisément à ce poste-là. Donc voilà, c'est aussi encore une fois une question de choix.
Oui, Murat Yakin se pose tellement de questions qu'il a parlé de Seferovic en conférence de presse.
Hallucinant.
Alors, je vais pas vous mentir, j'ai mis que va faire la Suisse à l'Euro 2024 dans le chat GPT et on était éliminé en huitième de finale, malheureusement, mais malgré un but de Seferovic.
En s'étant qualifié après, en terminant
à quelle 3e place
non, parce qu'on avait. Parce
qu'il deuxième
a... ChatGPT s'est un peu trompé de groupe, on a battu l'Italie 2-1, j'ai pas compris. Moi, ça m'a fait rêver, j'étais content.
Ah, elle est belle, l'intelligence artificielle. Elle est aussi artificielle que le jeu de la Suisse actuellement.
Oui, mais Abdouni, je suis complètement d'accord avec toi, Daniel. C'est vraiment un joueur fantastique. Mais c'est vrai qu'il est quand même aussi en perte de vitesse à Burnley. Dernière titularisation en février, il sera à la mi-temps.
Non, il était titulaire ce week-end.
Oui, mais je veux dire, c'est quand même globalement depuis mi-février, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui aussi.
C'est vrai.
Ah ouais, parce que je chasse, Okafor n'est pas titulaire à Milan, non?
Non, non, vraiment c'est vrai. Pas.
Bon, bah voilà.
Mais avec peut-être une autre concurrence, quand même.
Peut-être.
Mais bon, Iten, il ne met pas un pied devant l'autre, mais il est titulaire chez le futur champion de Suisse.
Pardon?